Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle visite radiophonique avec Nelly Lafont du Pays d'Art et d'Histoire Mandelotte en Gévaudan. Salut Nelly.
Salut.
Et Caroline Entraigue du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de la Lozère. Salut Caro.
Bonjour.
Alors les filles, on va aller où aujourd'hui ?
Alors comme on l'avait dit la dernière fois, on va remonter un peu le temps, direction début 20e siècle.
Aujourd'hui, une visite un peu particulière. On va rester à Mende, on va balader dans la ville et découvrir la vie et l'architecture d'un homme qui a laissé une œuvre très importante en Lozère et qui est pourtant assez méconnu, Joseph Ignon.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mandelotte en Gévaudan et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de la Lozère.
Allez, voilà une émission dans le cadre du mois de l'architecture. Alors, on est arrivé. On est où, Caro ?
Alors on est ici sur les contreforts du Mont Mima, sur les contreforts nord-ouest un peu du Mont Mima, dans un quartier plutôt résidentiel, on est derrière le tribunal. Il faut voir qu'en 1800 ici on était sur des terrains agricoles, cultivés, il y a un premier front bâti qui s'est installé le long des boulevards, et puis le tribunal lui qui a été construit dans les années 1830. Et ce n'est qu'à la fin du 19e, début 20e que va se développer dans ce quartier toute une zone résidentielle avec des maisons individuelles entourées de jardins, notamment des maisons assez cossues, des maisons de notables. Les terrains ils sont relativement pentus, mais ce qui permet à chacun d'avoir une très belle vue, comme on le voit devant nous sur la cathédrale.
Nelly, on est dans le quartier des Carses.
Oui, c'est ça. Alors, le quartier des Carses, ça veut dire prison, puisqu'il y avait ici la prison du chapitre, qui a été ensuite la vicairie. Et donc, c'est ici aussi que se trouvait le premier musée de Mende, le musée Ignon Fabre.
Ignon parle du même ?
Alors non, il s'agit, le musée Ignon Fabre tire son nom de Jean-Joseph-Marie Ignon, qui est l'arrière-grand-père de Joseph Ignon, dont on va parler aujourd'hui. Pour faire très vite, en fait, Jean-Joseph Ignon est imprimeur. On en avait parlé avec Caro quand on avait travaillé sur le Pandauriac à Mende, donc, qui est imprimeur, qui va venir s'installer donc, depuis l'Ardèche à Mende, installer son imprimerie dans la rue du Soubeyran. Jean-Joseph Marie Ignon va devenir une grande figure locale, puisqu'il va cofonder la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Lozère en 1819. Il va cofonder le musée aussi avec Georges Fabre, qui lui est géologue et forestier. C'est à lui qu'on doit le reboisement de l'Aigoual notamment. Voilà, donc on est fin 19e, début 20e à ce moment-là. Et alors après, pour terminer, donc le grand-père de Joseph Ignon, Charles-Julien Ignon va faire carrière dans la magistrature, il sera avocat à Mende, pour dire qu'en fait Joseph Ignon est issu d'une longue lignée de personnages importants pour la cité mandoise et un petit peu au-delà pour la Lozère. Et donc pour terminer cette longue lignée d'aïeux, il reste donc Édouard Ignon, 1831-1912, qui est le père de Joseph et qui est juge de paix et membre éminent de la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Lozère. Et comme ses aïeux, il a lui aussi la fibre culturelle et artistique et il va léguer à la postérité de nombreux fusains et aquarelles qui sont d'une spontanéité assez saisissante sur la Lozère dans les années 1840-1900.
Et du coup, Joseph ?
Mais du coup, Joseph, lui, il est né en 1871 à Florac. Il est parti étudier aux Beaux-Arts à Paris dans les années 1890. Ensuite, il fait son service militaire, qui à l'époque durait 5 ans. Il s'installe un peu temporairement au Puy-en-Velay comme archi. Et puis, il revient en Lozère dans la maison familiale à Mende à la fin du 19e siècle. Il est auteur de nombreuses maisons privées. Il va s'inspirer de l'art nouveau, de l'art déco, on en parlera tout à l'heure pour le développer. Et puis, il a une implication assez forte dans tout ce qui est culturel au niveau du département. Il est d'ailleurs architecte départemental. Et puis ensuite, il est aussi conservateur des objets d'art et antiquités du département. Il a fait énormément de campagnes de recensement de tout le patrimoine culturel. On peut parler notamment des croix. Et son travail a mené à beaucoup de classements ou d'inscriptions au titre des monuments et des objets. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser juste à son travail d'architecte, parce que sinon on aurait pu faire toute une émission entière sur son rôle de conservateur, mais ce n'est pas l'objet de notre visite.
On va s'arrêter, on va rester uniquement sur Mende, mais voilà, on évoquera le long de la visite d'autres réalisations extérieures à la ville, mais là l'idée c'était de se balader et de s'arrêter sur ces réalisations architecturales mendoises. Et donc, on va s'arrêter sur la Villa Marguerite de Mende, la Villa Cossignac. On peut citer aussi la Villa Creys de Bagnoles-les-Bains, dont on reparlera, la Villa Gounel au Monastier, la Villa au Champ des Carses de Mende, ou encore la Bibliothèque municipale de Marvejols, qui était l'ancienne caisse d'épargne.
Du coup, là, Caro, on est en face de la Villa Marguerite. Tu pourrais nous la décrire ?
Oui, donc là, pour nos auditeurs, on est juste derrière le tribunal et on est face à une très belle architecture de style art déco, art nouveau, qui est assez rare en Lozère. Cette villa, la Villa Marguerite, elle est construite entre 1920 et 1930, comme d'autres villas que l'on va voir dans ce quartier des Carses. On retrouve une maison assez similaire à celle du monastier Pin-Moriès, donc c'est sur la commune de Bourg-sur-Collagne, la fameuse Villa Gounel, mais qui a été construite précédemment, en 1903. Et on peut la trouver au croisement entre la route d'Aubrac et le cœur de village. Et on va retrouver notamment un élément qui est assez reconnaissable et assez marquant de l'art nouveau. C'est au-dessus de cette baie vitrée, le fameux mouvement arrondi qu'on appelle « coup de fouet ». Donc ce mouvement art nouveau, Nelly nous en parlera tout à l'heure, mais on va retrouver cette notion de courbe, de trait, de coup de fouet sur cette baie vitrée. Alors pour décrire un peu ce bâtiment, on est sur une maison qui est assez simple avec un plan plutôt carré. Et puis on a deux volumes plutôt étroits qui se trouvent sur la gauche. Un qui comprend le perron et le porche d'entrée et un autre derrière qui comprend la cage d'escalier. Et du coup cette verticalité, elle est renforcée par l'architecture et les ouvertures. On a deux grandes ouvertures très verticales, très étroites, qui renforcent le sentiment de verticalité et d'auteur de la maison. Au-dessus de cette grande fenêtre avec cet encadrement courbe, on va retrouver des alignements de fenêtres, dont une lucarne tout en haut, qui elle est plutôt de style, on pourrait dire, néo-gothique. On voit qu'elle monte très haut sur le toit. Et puis dessous, ces alignements de fenêtres de la plus grande à la plus petite. Ce qui est remarquable sur les bâtiments de l'époque, c'est le travail des décors. Sur cette maison, pas mal de décors ont disparu, mais on voit encore au-dessus notamment de cette fenêtre art nouveau, un décor en céramique qui évoque la brique. Au milieu, au niveau du clé de la voûte, si on peut l'appeler ainsi, on avait un très beau décor aussi en céramique, avec des décors floraux qui ont disparu. En fait, cette maison, il faut s'attarder sur les détails pour voir tous ces détails d'art nouveau, puisqu'elle a été décroutée. À l'époque, la maison était enduite, donc tous ces décors étaient beaucoup plus visibles qu'aujourd'hui, où elle a été décroutée et où tous ces décors, encadrements de pierre et de céramique, ont un petit peu disparu.
Sur le toit, derrière la lucarne, c'est quoi ce bloc qu'on voit sortir du toit ?
Alors ce bloc, c'est la cheminée. Ce qu'il faut comprendre dans l'architecture de cette époque, c'est que c'est un ensemble de petites pièces. Et donc chaque pièce va avoir sa cheminée. Ce qui fait qu'on a des conduits de cheminée assez surdimensionnés pour notre époque, mais ça reflète vraiment l'aménagement intérieur où on est sur des petits volumes. Et j'ai oublié de parler aussi du détail de la porte, qui est d'époque, hein, tout en bois, avec de la ferronnerie. Et on retrouve sur la ferronnerie tout ce motif un peu courbe, souple, coup de fouet, assez typique de l'art nouveau.
Peut-être on peut parler un peu plus de l'art nouveau. En fait, hein, c'est un mouvement qui est souvent confondu avec l'art déco, qui va le précéder en fait, et qui va naître de la révolution industrielle. Et comme le disait Caro, ce mouvement en fait va s'inspirer, va trouver ses formes dans la nature, dans les courbes, dans les arabesques, et va s'appeler l'art nouveau en réaction à ce fameux style Napoléon III qui est très classique, qui va reprendre un peu tous les critères qu'on a eu jusqu'à présent. L'Art Nouveau va toucher principalement l'architecture, mais pas que, les objets de décoration d'intérieur, comme les meubles et les verreries. Et on a de grands noms hein, en France, comme l'architecte Hector Guimard, qui est un des plus célèbres représentants de ce mouvement qui naît au début des années 1890 en France. On peut citer aussi Louis Majorel, Émile Gallet, René Lalique, qu'on va retrouver la plupart dans l'exposition universelle de 1900. Et puis va arriver la Grande Guerre, qui va marquer la fin de ces inspirations libres et volubiles de l'Art Nouveau, pour laisser la place à l'Art Déco dans les années à peu près 1920, qui va promouvoir un retour au classicisme en fait. Et ça, on va en reparler aussi avec Caro, puisque en fait Ignon va s'inspirer de l'Art Nouveau, de l'Art Déco, et c'est vrai qu'aussi on est en Lozère, donc il y a certains éléments qui vont arriver un petit peu en retard aussi chez nous. Donc on va retrouver des éléments de langage de l'Art Nouveau et de l'Art Déco dans les villas bourgeoises d'Ignon. Donc on va le voir aussi hein, toutes ces villas sont plutôt dans les faubourgs mandois, parce que c'est là où on va encore avoir la place de construire. Et au point de vue architectural, elles vont aussi se baser sur l'utilisation de la travée. Quand Caro a fait la description, on voit bien que en fait, toutes les ouvertures sont alignées dans cette verticalité pour bien marquer un élan vers le haut.
Et puis ce qu'il faut comprendre sur cet Art Nouveau et cet Art Déco et sur le travail de Joseph Ignon, c'est qu'à l'époque, l'architecture n'est pas vue simplement comme de l'architecture, mais c'est vraiment un art au même titre que la sculpture, le design et la peinture. Donc c'est un mouvement qui est dans un tout. Voilà, c'est pour ça que l'on va retrouver à la fois dans l'architecture, dans les ferronneries, dans la peinture, dans l'aménagement intérieur. Et ça se comprend parce qu'à l'époque, les écoles d'architecture n'existaient pas. Et donc Joseph Ignon, lui, il est digne représentant de cette époque où du coup les architectes n'étaient pas qu'architectes, ils étaient aussi sculpteurs, designers, peintres. Et Joseph Ignon est également très connu pour ses dessins. Il fait des aquarelles magnifiques qui sont à la fois d'une grande qualité et précision que l'on demande sur l'architecture, le dessin technique, mais il a également la technique picturale de l'aquarelliste avec un jeu de couleurs et de techniques de la vie qui est très très intéressante. Et donc, ça vaut le coup de s'attarder un peu sur l'histoire des écoles d'architecture parce que ça explique un peu ce mouvement d'Art Nouveau, Art Déco. Et du coup, à l'origine, les écoles d'architecture, elles ont été créées en 1794 et c'était l'école centrale des travaux publics qui maintenant a pris le nom d'école polytechnique. Et puis, à l'époque où Joseph Ignon, du coup, entre en école d'architecture, Eugène Viollet-le-Duc va créer l'école centrale d'architecture. Aujourd'hui, c'est l'école spéciale d'architecture. Et du coup, l'architecture qui était traditionnellement intégrée au métier de la mise en œuvre, de l'édification des constructions, ben au 19e, le système français il est un peu marginal par rapport aux autres pays. Et c'est là que l'école d'architecture est considérée comme l'une des quatre disciplines des beaux-arts. Et les écoles intègrent les beaux-arts, donc la gravure, la sculpture et la peinture. Et ça, ça perdure jusqu'en 1968. Donc c'est assez long, hein, ce mélange de métiers, où du coup, là, les écoles d'architecture, via le ministre de la Culture André Malraux, elle rompt avec ce côté un peu académique de l'architecture et a créé une douzaine d'unités pédagogiques d'architecture, les fameuses écoles d'architecture qu'on connaît aujourd'hui.
En fait, tout est extrêmement relié, et comme on le disait tout à l'heure, donc l'Art Nouveau tire son inspiration de la révolution industrielle et va faire du matériau en fait aussi une source d'inspiration. Donc on va retrouver dans l'architecture l'emploi de céramique, de verre, de ferronnerie, qui renvoie à la notion que vient d'expliquer Caro d'art total, puisqu'on va aussi utiliser toutes ces matières-là.
On va le retrouver notamment quand Nelly parlait d'Hector Guimard sur les fameuses bouches de métro parisiennes qui sont le stéréotype de l'art nouveau.
On va se déplacer, on va aller visiter, voir une autre villa un peu plus sobre, peut-être un peu moins travaillée, mais une autre villa d'Ignon qui est située 50 mètres au-dessus de la Villa Marguerite. Thank you.
Allez, Caro, contrairement à ce que nous a dit Nelly, bon, c'est pas 50 mètres, c'est plutôt à 15-20 mètres. Juste au-dessus, on arrive à une maison mais qui n'a visuellement pas de rapport quand même avec celle-là qu'on vient de décrire.
Alors, ça n'a pas de rapport parce qu'on n'a pas l'habitude de bien regarder les choses. Voilà, on est ici devant la maison dite Bougnol et elle est facilement repérable par une fausse lucarne pignon en pierre. Et c'est pour ça que là, on est plus sur une maison qui va reprendre les codes de l'art déco. On est sur des motifs qui sont plus géométriques. On retrouve plus cette notion de courbe. Mais on voit qu'à chaque encadrement d'ouverture, on a un travail très soigné de décor avec des pierres de calcaire rapportées. On ne va pas retrouver ici des décors en céramique, mais il est fort possible qu'il y en avait à l'époque et qu'ils ont disparu. Ce qui est assez intéressant, c'est, comme disait Nelly, la verticalité que l'on va retrouver par rapport à la maison Marguerite. Donc des ouvertures étroites, très hautes, et qui renforcent ce côté vertical.
Ce qu'on peut dire aussi pour les auditeurs, c'est que cette maison, donc c'est l'ancienne villa des Carses, a conservé son enduit. Donc on a quand même là davantage la vision qu'on pouvait avoir à l'époque, bien qu'il fallait imaginer cette maison entourée de prés. Puisque tout ce quartier-là n'était pas construit, n'était pas bâti au moment de la construction de la maison.
Un peu plus loin, on est retourné au square Émile Joly, à côté de l'espace événement, et on est devant une fontaine.
Exactement, et cette fontaine a été faite aussi par Joseph Ignon, puisque dans sa prolifique carrière, il va réaliser plusieurs bâtiments et monuments publics. Donc on va voir cette fontaine, on va avoir ensuite un autre bâtiment public. Et donc cette fontaine, elle se trouvait à l'origine au carrefour Saint-Jean, là où coule aujourd'hui la fontaine de la Mandosère, donc au niveau de l'entrée de la ville côté ouest. Voilà, je ne me trompe pas. Elle a été démontée pour être remontée ici dans le square Joly, à l'arrière de l'espace événement Georges Fraîche. À l'origine, il y avait le buste de la République qui devait être certainement placé au-dessus du piédestal. Mais voilà, il a disparu et on ne sait pas où il est aujourd'hui.
Donc on retrouve un peu dans la forme de ce bassin le côté art nouveau, avec cette forme arrondie et dans la coupe du bassin, donc dans l'épaisseur de la pierre qui est sculptée, également cette petite forme coup de fouet que l'on retrouve. Et par contre, ce fameux piédestal dont parlait Nelly, qui lui s'approche plus d'un pilastre, d'une colonne.
Allez, on va poursuivre donc vers le monument aux morts, vu que tu as lâchez l'info, Caro.
Et oui, c'était un petit spoiler balade.
Allez, on est devant le monument aux morts, Nelly.
Oui, alors on est sur la place du Foirail, devant le monument aux morts de la Grande Guerre, qui est un autre projet, une autre commande publique honorée par Ignon. Et ce projet, il est très intéressant à plusieurs points de vue, notamment parce qu'il révèle le processus de création d'Ignon. Caro en a un petit peu parlé en introduction, mais nous avons la chance pour ce projet d'avoir conservé de nombreuses esquisses et croquis du projet qui nous permettent en fait de voir l'évolution entre ce qui a été projeté, ce qui a été dessiné et ce qui finalement a été réalisé. Et donc ce monument aux morts est décidé dès 1915 pour être bâti dans l'esprit des idylles dès le lendemain du conflit.
Du coup, comme le disait Nelly, ce monument a été prévu à l'origine au niveau de l'allée Piencourt, puis sur la place du Foirail. Et puis sa mise en œuvre, elle connaît de vives tensions politiques et notamment économiques surtout. Et on a de nombreuses esquisses, dont celle que vous avez eue en indice, dont une esquisse qui a été peinte vers 1922 certainement, et qui montre d'emblée un projet très ambitieux, très ancré dans l'art déco, avec deux grandes obélisques, assez disproportionnées hein, par rapport à ce que l'on a aujourd'hui. Avec un décor en bas-relief au milieu et des décors en céramique. Donc aujourd'hui, hein, on voit bien que cet obélisque ne correspond pas à l'esquisse qu'avait fait Ignon, puisqu'il n'y a plus qu'une seule obélisque. On a conservé par contre l'imposant piédestal de granit, socle granitique, hein, avec des formes sculptées géométriques. On va retrouver des carrés et des rectangles. On n'est plus sur le motif des motifs floraux ou ornementaux, on est vraiment sur de la géométrie pure. Ensuite, on va avoir trois petit pied d'obélisque sur lequel repose la grande obélisque, qui elle est assez sobre finalement dans son dessin.
Il y a également une sculpture, Nelly, dessus ?
Oui, sur la face principale, on a un bas-relief donc, qui représente une figure féminine en train de cueillir des fruits, donc un symbole de liberté et de paix, évidemment. Et donc pour finir sur ce monument aux morts, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'au final, Joseph Fignon a aussi réalisé les monuments aux morts de la Canourgue, de Serverette et de Rieutort de Randon, ainsi que le dernier de Grandrieux en 1926.
On fait une dernière halte sur notre trajet ?
Alors on va monter sur l'autre coteau de la ville pour aller découvrir une maison très originale de Joseph Fignon, qui est la maison anciennement Cossignac.
Donc voilà, on a pris la voiture pour aller devant la villa Cossignac, c'est comme ça qu'elle s'appelle, Nelly ?
Oui, la villa Cossignac, qui tire son nom des grands magasins Cossignac qui étaient dans la rue de la République au début du XXe siècle, vendeurs notamment de tissus et de textiles.
Et donc on est face à cette belle villa hein, qui est une maison de notable hein, avec un style ignon très marqué et reconnaissable. On est sur les contreforts de Mende, juste derrière le lycée Chaptal. Du coup, pour vous décrire cette maison, donc c'est une maison sur deux niveaux dont le rez-de-chaussée est un petit peu surélevé par une terrasse panoramique qui donne une vue sur Mende. C'est une maison en L avec un pignon face à nous très richement décoré dans le même style que la Villa Marguerite. Hein. On voit les pierres d'angle qui ont été déposées, qui sont là pour faire du décor avec un jeu de relief. Mais on voit surtout tout un ensemble de céramiques de très grande qualité, notamment au niveau de la corniche du retour ou encore sous les fenêtres du comble qui là font un petit retour en arrière sur le style roman ou gothique qu'on a vu dans la Villa Marguerite avec des fenêtres jumelées.
Oui, on retrouve tous les éléments dont vous parliez depuis le début de la visite qui font ce style reconnaissable sur les bâtiments d'Ignon.
Tout à fait. Alors après, c'est vrai que là, la maison a été aussi extrêmement remaniée par rapport à la production originelle.
Oui, on va le voir, comme disait Nelly, sur la partie droite, il y a une extension qui a été réalisée, hein, qui reprend la volumétrie du bâtiment initial, mais aucunement la richesse de son décor. On retrouve, comme dans la Villa Marguerite, une grande baie vitrée en bas et des dimensions de fenêtres qui vont rapetissir en fonction des niveaux, qui continuent à montrer cette verticalité. Et entre le rez-de-chaussée et le premier niveau, on a là un très beau bas-relief en céramique. Ce qu'il faut voir, c'est que en fait, ces décors ils sont amenés beaucoup à disparaître. On l'a vu quand on a fait la visite de Bagnoles-les-Bains sur la Villa Creys, où on a tous ces décors en céramique fragile hein, qui craignent le gel et l'eau, qui du coup ont disparu. Et donc ces bâtiments-là ne font l'objet d'aucun classement, d'aucune spécificité sur la protection qu'elles peuvent avoir sur le patrimoine. C'est un patrimoine qui amène un petit peu à disparaître, puisqu'aujourd'hui ça fait plus de 100 ans qu'elles ont été construites. Donc petit à petit, elles s'abîment.
Et Carole, il y a d'autres patrimoines de ce style en Lozère ?
Ah oui, il y a un très gros patrimoine art déco, notamment sur Langogne. Quand on arrive sur Langogne, sur la droite, on va trouver une maison avec des couleurs roses, vertes et beaucoup de décors. Ça, c'est justement l'art déco. Le département a également récemment rénové les anciens biens de douche de Langogne qui accueillent la maison départementale des solidarités. Et puis, il y a également le cimetière de Langogne qui a un patrimoine art déco qui est absolument remarquable.
Oui, voilà. En fait, comme on le disait en introduction, ce type d'architecture, on va le retrouver de manière un peu ponctuelle dans tout le département parce que voilà, c'est dédié quand même à une bourgeoisie. Donc, on va le trouver essentiellement dans les grands bourgs, dans les villes de Lozère, dans les faubourgs des villes, parce qu'on va construire là où il y a la place, là où ce n'est pas encore construit. Et peu de personnes peuvent se permettre d'avoir une villa de cette ampleur à cette époque-là.
On a une actualité pour cette émission, Nelly ?
Alors, oui, alors... D'abord, pas vraiment une actualité, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que si vous voulez en savoir plus sur Joseph Fignon, il existe un très très bon article rédigé par Bruno Jodon en 2019 dans le bulletin de la Société des Lettres Sciences et Arts de la Lozère. Donc vous pourrez aller plus loin sur la vie et l'œuvre de ce grand homme lausérien.
Et n'hésitez pas à aller aux archives, hein, puisqu'il y a un fonds d'archives Ignon qui est très très intéressant.
Et bien sûr, Caro, on l'a dit en début d'émission, c'est le mois de l'architecture.
Et oui, c'est le mois de l'architecture en Occitanie durant tout le mois d'octobre. C'est organisé par la DRAC. Et en Lozère, vous trouverez au musée du Gévaudan du 19 au 30 octobre une exposition sur les travaux des étudiants de l'école d'architecture dont on parlait tout à l'heure, hein, qui ont travaillé sur les communes de Saint-Chély-d'Apcher, Le Malzieu et Saint-Alban. Donc, c'est les étudiants de l'école d'architecture de Clermont-Ferrand qui ont travaillé quasiment pendant 6 mois sur ces territoires-là. Il y aura des plans, des perspectives, des maquettes et bien sûr une visite commentée le 19 à 15h30.
Une anecdote, Nelly, pour Brillant Société ?
Bien sûr, évidemment. Alors, est-ce que tu connais, Ludo, l'autre nom de l'art nouveau ? Tu veux un indice ? Si je te dis spaghetti, farfalle, macaroni, tu penses à quoi ?
À l'Italie.
Ben, c'est le style nouille, en fait. Parce qu'on privilégie les lignes courbes, les arabesques, sur les lignes droites. Voilà, donc on appelle ça aussi le style nouille.
D'accord, eh bien on en apprend tous les jours dans cette émission.
Et puis comme on parle voyage, Ludo, et on sait que nous sommes écoutés au Japon, sais-tu comment on dit Villa Marguerite en japonais ?
J'en ai aucune idée.
Viradesi !
Ah, avec l'accent italien, un japonais avec l'accent italien, c'est bien.
Les japonais roulent les R.
Ah, d'accord.
Alors, je ne sais pas si tu te souviens, mais on avait vu que notre première visite radiophonique donc sur le château du Tournel avait été écoutée depuis le Japon. Tu t'en souviens, Ludo ?
Absolument.
Et donc voilà. Nos auditeurs japonais, si vous nous écoutez, voilà.
Voilà. Et si vous pouvez nous loger à l'occasion pour qu'on vienne vous voir, ça sera avec plaisir.
Pourquoi pas ?
Allez, sinon, on va aller où le mois prochain ?
Eh bien, on va reparler d'architecture méconnue.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mande et Lot en Gévaudan et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de la Lozère.